18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Vous le savez, c'est toujours un plaisir et puis un plaisir partagé, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous venir tout simplement aux Informés de 18h à 19h30. Allez, c'est parti pour démarrer cette semaine. Vous le savez, plein de bonnes choses. Je vous ai concocté eh bien des petites choses, vous allez voir, au menu de ce soir. Clochetta. Clochetta, c'est ça, c'est comme ça qu'on va l'appeler, hein. C'est son surnom, la Clochetta. Trin, trin, trin. Je sais, Gemma, faut pas en abuser. Je sais, elle écoute. Donc, je vais pas en abuser. Oui, vous inquiétez pas, pas de problème. Comme dirait Giovanni, voilà. Allez, au sommaire de cette émission, plus sérieusement, vous le savez, d'abord notre invité, on va parler de MMA. Ça va fighter. Tra! Pourquoi ça va fighter? Parce que c'est la seconde édition. Et puis surtout, parce que Abdel, il a redécidé tout simplement, eh bien, de remettre cette édition, cette seconde séquence, puisqu'elle a eu un succès l'année dernière. Il y a quelques mois. Eh bien, on remet donc une rentrée, donc, évidemment, avec de belles auspices. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, après les auditeurs. Les auditeurs, j'aimerais vous entendre tout à l'heure parce que j'ai vu tout à l'heure le tweet de Daniel Obono. Alors, il fait polémique. Vous savez ce qu'elle a lâché? Tiens, trouve-nous le Giovanni, l'extrait de Daniel Obono. Parce qu'il faut quand même qu'on le diffuse à l'antenne. Elle a dit, mangez vos morts. N'abusez pas sur la clochette, vous allez avoir un avertissement. Je vous préviens. Alors, Daniel Obono, mangez vos morts, que faut-il comprendre? Eh bien, je vous laisserai évidemment réagir au 0153 48 3000. 18h30, l'avocat Maître Franck Serfati qui sera avec nous et son regard sur l'actualité avec un volet juridique. Et on parlera ce soir eh bien, du procès des attentats du Bataclan. On reviendra sur cette actualité. Ensuite, le face-à-face. Eh bien, le face-à-face qui a retenu notre attention. On reviendra sur les trois sujets d'actualité. À la fois, vous savez, sur ce tweet, mangez vos morts, l'insoumise Obono, eh bien, revient sur les gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran. Bon, a-t-elle exagéré ou a-t-elle raison? Eh bien, on reviendra sur cette actualité. Sandrine Rousseau qui se fait huer en pleine manifestation. Ça se passait à Paris hier, alors que Sandrine Rousseau, elle, tente d'exister au sein d'Europe Écologie Les Verts. On reviendra sur Céline Katnas qui a déposé de nouveau. Eh bien là, il ne s'agit pas d'une main courante, mais d'une plainte contre Adrien Katnas. Ça se passait le 26 septembre. L'affaire épisode 2, on reviendra sur cette actualité. Les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, et Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour, on est lundi.
Les Informés, l'interview.
Et l'interview, c'est avec le boss, le patron, eh bien, de cette belle organisation du MMA. Muay Thai, MMA, kickboxing, tout est au menu, tout est au sommaire de cette édition de ce samedi prochain. C'est avec Abdel Kaznadji. Bonjour.
Bonjour Adil.
Comment ça va mon cher Abdel Kaznadji?
Eh ben ça va très bien et toi?
Très bien, tout va bien. Je suis ravi de vous accueillir parce qu'il y a quelques mois, on avait parlé évidemment de votre édition qui se déroulait au Cercle d'Hiver. Alors les sports de combat s'invitent toujours au Cercle d'Hiver, si j'ai bien compris, à Paris.
Ouais, sur Paris, nous on a pris racine au cirque. Bien sûr, il y aura d'autres salles, mais en tout cas, on a au moins 4 ou 5 dates par an au cirque d'hiver.
Ce que je vois, c'est que vous avez à la tête évidemment des affiches, des gens, des célèbres noms qui viennent évidemment fournir, alimenter des bonnes choses pour ce samedi. Parlez-nous-en, mon cher Abdel Kaznadji.
Ben là, on a tout présenté la carte. On a quand même Jérôme Le Banner. C'était pas prévu. On s'est accordé il y a un mois et demi. Il fait son dernier combat en France.
Avec vous.
C'est prévu chez nous.
Avec vous.
Depuis 2005, je crois qu'il n'a pas combattu à Paris. Et donc là, il fait son retour à Paris. Puis ce sera la dernière pour lui.
La dernière pour lui. Pourquoi ce sera la dernière? Et vous avez expliqué un peu pourquoi, les raisons?
Ben déjà, on est à la limite de l'âge. Il faut savoir qu'il a, il a 50 ans. Jérôme, donc en MMA, c'est pour ça qu'à mon avis, il va continuer, il risque de continuer à l'étranger en kickboxing, mais en France, c'est très réglementé. Et puis, bon, bah là, il se fait plaisir en MMA. Il suit aussi la légalisation. Enfin, là, c'est assez festif pour lui. Donc, il marque le coup, il l'a fait chez lui au Havre, et puis là, il l'a fait une fois sur Paris. Donc voilà, puis après il raccrochera logiquement en France.
Jérôme Le Banner qu'on connaît, donc qui va évidemment à la fois fermer un chapitre de sa vie professionnelle. Ça se passe au Cercle d'Hiver. Quel est le programme, mon cher Abdel, pour ce week-end?
Alors, programme, on a Jérôme Le Banner contre Alik Adnan. Donc Alik Adnan, c'est un combattant qui a déjà croisé Jérôme en kickboxing il y a quelques années. Et Jérôme avait gagné et là il était ouvert pour une rencontre en MMA, pour sa petite revanche en MMA. Derrière, on a la chance d'avoir Michael Aljarouge. Michael Aljarouge, c'est un combattant, c'était l'un des meilleurs 57 français avant le confinement. Et aujourd'hui, il nous fait le plaisir de combattre en France pour la première fois en MMA. Donc ça, c'est assez énorme aussi. Mmh. Et puis on a Title Shy qui était l'adversaire de Cédric Doumbé au dernier événement de MMA au Cercle d'Hiver. Et puis on a d'autres noms, notamment de chez moi, de mon club. Je suis content de faire combattre Danjougou Sidibé, Benzé. On a Morgan Gébolo aussi de chez moi qui combattra. J'en ai pas souvent sur la carte. On en avait qu'un la dernière fois. Et puis après on a David Karp, Cédric Sévrac. On a pas mal de monde. Mathieu Chaumont. On fait venir un combattant de la team de la Snake Team qu'on a rarement aussi.
Abdel Kadzladji, justement, vous-même, vous êtes un ancien du MMA. Aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire en tant que vous avez endossé l'habit de l'organisateur. Ça s'appelle toujours le Fight Sport Management.
Ouais, alors ça devient Fight Sport United. En fait, on va changer ça en cours de modification, tout simplement parce qu'on est très sollicité par les combattants étrangers, parce que management dans le monde du MMA, c'est gestion de carrière. Et moi, je gère mes combattants à moi, c'est pour ça que je l'avais appelé Fight Sport Management, mais je ne gère pas de combattants extérieurs, enfin très peu. Et donc là, on a décidé de modifier le nom, mais ce sera sur Fight Sport United dans peu de temps.
Et la soirée, donc ça se déroule sur ce week-end, samedi-dimanche, c'est bien ça? Et ça s'appelle toujours le MMA Grand Prix.
Alors MMA Grand Prix, donc le premier soir, samedi, on a MMA Grand Prix, donc on aura une carte 8 combats pro, 2 combats amateurs. Donc pour le samedi soir, on est sur 10 fights. Et le dimanche, pour la première fois, Cirque d'Hiver, on fait un circuit amateur. On va donner la possibilité à tous les jeunes, à tous les débutants, de s'exprimer dans une vraie salle parisienne. Ça va être énorme, c'est une grande première, en accord avec la SMMAF. On a monté ça, donc on a une carte d'au moins 20 combats amateurs. Et ce sera filmé et télévisé sur Sport en France en plus. Donc,
il y a quelques mois, Abdel Kadznadji, justement, on se souvient de cette belle victoire du franco-camerounais Cédric Doumbé, qui avait marqué les esprits d'ailleurs. Est-ce qu'on peut s'attendre évidemment à la même teneur avec Jérôme Le Banner?
Oui. En fait, Jérôme a beaucoup, beaucoup de fans. Hein. Jérôme, c'est un monument hein, dans le monde du combat. Et je pense qu'à Paris, on risque d'avoir la même ambiance et puis on risque de faire ça le comble assez rapidement. Hein.
Salle comble. Vous donnez la possibilité, si j'ai bien compris, à des talents de la boxe thaï, à des talents du kickboxing, justement, d'émerger.
Alors, plus en kickboxing et en boxe thaï, là, je me suis recentré sur le MMA, justement. La dernière fois, on l'avait fait, et puis on va se recentrer sur le MMA parce qu'il y a un manque évident, en fait. Beaucoup d'organisations pro en MMA en France, mais très peu en amateur. Donc, on va donner un coup de main à la jeunesse.
C'est vrai que moi j'étais là, j'ai passé un très bon moment, Abdel, je dois le dire. C'est pour ça que je le dis à nos auditeurs. Au Cercle d'Hiver, il y a une ambiance particulière. Hein.
Ouais, carrément, carrément. En fait, il y a cet effet arène, en fait, et puis il y a une belle hauteur sous plafond. Donc déjà, tu as une visibilité de partout, il y a une super visibilité de partout, puis on est très proche de la cage, en fait. Donc ça crée une ambiance et une atmosphère très particulière. Ouais.
Vous attendez à peu près le même succès ou vous espérez mieux, Abdel Kadznadji?
Ça va être dur de faire mieux puisqu'on a fait ça le comble avec Cédric Doumbé. Donc je pense qu'on aura le même succès que Komodo Yé.
Alors on va oser, Abdel, vous qui êtes l'organisateur du Fight Sport United, si j'ai bien compris, vous nous l'avez
MMA
dit.
MMAGP, ouais.
Exactement. Est-ce que vous avez la possibilité, on peut ouvrir l'antenne à nos auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie, qui évidemment en vous écoutant ont envie de venir ce week-end voir Jérôme Le Banner. Est-ce que vous offrez des places ce soir?
Ouais, c'est parti.
J'improvise, hein, Abdel, parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas concerté là-dessus.
Non, 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 c'est d'improvisation.
Vous en offrez combien ce soir?
Allez, on dit 8 places.
Combien?
8.
8. Allez, les 8 premiers, c'est parti. On ouvre l'antenne. Les 8 premiers, 01, 53, 48, 3000. Les 8 premiers repartent avec l'invitation organisée pour le MMA Grand Prix, pour le MMA tout court, de ce week-end au Cercle d'Hiver à Paris. C'est parti, le standard est ouvert. 01 53 48 3000. Abdel vous offre des places. L'organisateur donc vous offre des places pour MMA Sport. Et je peux vous dire, Abdel, le standard explose. Vraiment, quand il explose, il t'explose. On va les prendre en direct, Giovanni. Abdel, on prend le premier auditeur. C'est comme ça que ça se passe chez nous, Abdel. Hein. On met l'ambiance.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, appelez-moi Adil, ça ira, on est entre nous. Quel est votre prénom ?
Jérôme.
Jérôme. Jérôme le banneur.
Ben, non, mais désolé, mais c'est le même prénom.
Non, mince, on n'aura pas eu Jérôme le banneur. Alors, Jérôme, vous nous appelez d'où ?
De l'Eure-et-Loire, à côté de Chartres, entre Chartres et Dreux.
Bravo, bienvenue. Vous faites quoi dans la vie, Jérôme ?
Je rénove des bâtiments, je fais de la location pour les particuliers.
Super. Voilà, Jérôme, Abdel, qu'est-ce que vous lui proposez, Abdel ?
Eh ben, on lui offre une place. Il arrive de loin, peut-être. Bah.
Est-ce que c'est par deux, chacun, ou est-ce que...
Alors, je suis en couple avec une petite haïtienne.
Alors, Abdel, forcément, vous allez offrir deux places, je pense, par personne.
Exactement, deux places pour Jérôme.
Oui. Allez, Jérôme, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Regardez la classe, il vous offre deux places, Abdel. Jérôme, vous lui répondez ?
Eh bien, merci beaucoup, et on va y aller avec un grand plaisir, et j'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance.
Exactement. Jérôme, Giovanni, qui est au standard, va prendre vos coordonnées, ne quittez pas, il va prendre votre portable, comme ça, on envoie tout à Abdel. Quel est le second appel ? Bonsoir. Ne quittez pas Jérôme. Hein. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur ?
Khalid. Bonsoir.
Khaled, vous nous appelez d'où ?
De Goussainville.
Goussainville. Qu'est-ce que vous faites, Khaled ?
Dans la vie ?
Oui.
Je suis coach sportif.
Oh là là, coach sportif. On n'a que des, la classe. Abdel, qu'est-ce que vous dites à Khaled ?
Eh bien, Khaled, on va lui offrir aussi deux places. Hein. J'imagine qu'il ne viendra pas tout seul.
Et je tiens à préciser juste une chose, c'est que je suis aussi organisateur, je réinviterai l'organisateur à ma fête aussi.
Ah, ben vous viendrez à l'antenne. Merci Khaled, vous repartez avec deux places. Ne quittez pas Khaled, on va prendre vos coordonnées. Giovanni va prendre vos coordonnées. Troisième auditeur, ça fait 2, 4, 6, 8. Attention, attention les amis, 0153 48 3000. À qui ai-je l'honneur ? Bonsoir.
Bonsoir, Riyad.
Quel est votre prénom ?
Riyad.
Riyad, vous nous appelez de quelle ville ?
Alfortville.
Alfortville. Je kiffe quand les auditeurs appellent comme ça, participent. Moi, c'est ça, sa vie, c'est ça, les informés. Riyad, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Riyad ?
Bon, actuellement, je suis en formation pour de courtage en assurance.
Allez, Abdel, qu'est-ce que vous dites à Riyad ?
Riyad, on dit de classe aussi, alors.
Ah, superbe, superbe, superbe. Merci beaucoup.
Vous allez kiffer, vous allez voir. Vous allez kiffer ce week-end avec Jérôme Le Banneur, Riyad. Hein.
Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe.
Bah écoutez, il faut les encourager, ils en ont besoin. Et Abdel, franchement, je vous le dis, il fait un travail remarquable. Bravo Abdel. Hein.
Bravo Abdel, merci Abdel.
Ouais. Merci Riyad. Merci. Ne quittez pas Riyad, Giovanni va prendre vos coordonnées. Et les derniers, les dernières places qui restent, ça fait 2, 4, 6, 8. À qui ai-je l'honneur ? Bonsoir.
Bonsoir, c'est Sofiane de Saint-Denis.
Saint-Denis, Sofiane, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sofiane ? Bienvenue à vous, Sofiane. Abdel, qu'est-ce que vous proposez à Sofiane ?
Deux places pour Sofiane.
Allez, c'est parti, Sofiane. Vous lui répondez quoi ?
J'ai pas entendu.
Non, il vous offre deux places, il vous aime de vous dire.
Ah, bah, merci beaucoup, Abdel. Merci, c'est super ce que vous faites. Merci beaucoup. Hein. Et bah, j'espère que ça va exploser en France, hein. On en veut.
On fait le travail, on fait le tour.
Abdel.
Ah bah merci bien. Merci
Sofiane, bien. Ne quittez pas, on prend vos coordonnées. Alors, tous ces gagnants, ne quittez surtout pas parce que Giovanni va récupérer vos portables et on va les transmettre à Abdel. Abdel, vous avez vu, vous savez que le standard continue à exploser là, de votre faute ?
J'allais dire, on va arrondir à 10.
On va pas arrondir. Ah bah non, on dit, allez, c'est parti Giovanni, allez, Giovanni. C'est parti, 0153 48 3000, à qui ai-je l'honneur ? Bonsoir.
À Kamel.
Kamel, baissez votre poste de radio, s'il vous plaît. Vous nous appelez de quelle ville ? Kamel.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville, Kamel ?
Là, actuellement, je suis à Gisors.
À Gisors. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Kamel ?
Je suis taxi.
Taxi. Je kiffe les taxis. Tous les taxis et les Uber sont connectés à Beurre FM. Ouais. Franchement, je vous dis à tous les taxis et les Uber, respect. Voilà.
Merci,
respect
monsieur.
À vous. Abdel, qu'est-ce que vous dites à notre taximan ?
Alors, Kamel, de place aussi, hein ?
Ah, voilà, Royal. Qu'est-ce que vous répondez, Kamel ?
J'ai pas entendu.
Il vous offre deux places, Abdel.
Merci beaucoup, Abdel.
Ouais. Merci à toi, Kamel. Merci
pour tout. Que Dieu te protège, Abdel. Merci.
Merci, Kamel. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Abdel, ne quitte pas notre taxi. Tous les gagnants là, Giovanni, il va prendre vos coordonnées. Abdel, ça fait plaisir quand même. Ouais. Vas-y, à vous, là, en quelques secondes, vous avez explosé le standard.
Eh ben, je suis ravi, Adil.
Et ça continue d'appeler, malheureusement. 10 places, c'est 10 places, c'était pour les 10 premiers. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent partout en France, qui ont envie de venir participer au Grand Prix MMA de ce week-end, très attendu au Cercle d'Hiver?
Eh ben écoutez, on a ouvert la billetterie plutôt tardivement, donc les places sont ouvertes, ça part assez vite, mais il reste encore pas mal de places.
Où ça?
Et puis d'après, pardon?
Où ça? Quel site?
Sur le MMAGP.org. Sur MMAGP.org, vous allez pouvoir prendre vos places, elles sont disponibles, ou sur West Event. Et puis aussi une autre info, on a déjà annoncé le 19 novembre, on sera à Bordeaux aussi.
Pour une belle les Bordelais, on est écoutés à Bordeaux. Oh, on est très écoutés à Bordeaux. Il m'arrive d'avoir des auditeurs là-bas en DAB+. En DAB+, on a une belle audience sur Bordeaux.
Donc on est content, une grosse équipe là-bas. Il y a l'INSEC, université d'étudiants dans le management sportif. On a monté, voilà, il y a un truc qui se crée en Aquitaine. Il y a un grand groupe qui s'est créé. Et là, on commence à travailler avec eux. Et justement, on va lancer les hostilités avec cet événement majeur, un gros événement. On attend au moins 4000 personnes au parc des expos de.
Eh ben, on en reparlera sur notre antenne si vous voulez bien, Abdel.
Plaisir. Avec grand plaisir.
Abdel, rappelez donc l'événement à ne pas manquer au Cercle d'Hiver. C'est à partir de quelle heure?
C'est à partir de 18h30, ouverture des portes, 18h30.
Samedi, à ne pas manquer avec le retour du grand Jérôme Le Banner qui fait son dernier combat pour vous exceptionnellement au Cercle d'Hiver. Merci Abdel, très bonne soirée.
Merci beaucoup Adil. Merci.
À ce week-end. Et ne raccrochez pas à tous les celles et ceux qui ont gagné. Giovanni va prendre vos coordonnées et on les envoie donc à Abdel. Allez, pause, on se retrouve tout de suite dans une poignée de minutes. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
18h25, merci à Abdel et toute son équipe. En tout cas, ils font un travail remarquable, exceptionnel. Rendez-vous à ne pas manquer ce week-end. C'est parti, 01-53-48-3000, je vous attends au standard. Eh bien, pour participer à ce débat concernant le fameux tweet qui suscite interrogations, polémiques, mais aussi débats, la députée LFI, la France Insoumise, Danielle Obono, qui a utilisé des mots extrêmement violents pour dénoncer les attaques subies par Sandrine Rousseau, accusée de promouvoir le port du voile. Mangez vos morts. On a un petit extrait ou pas? On écoute.
Expliquez-moi, ça veut dire quoi, manger vos morts?
Ben, je pense que vous savez utiliser un moteur de recherche et vous saurez avoir l'explication. Et c'est un tweet forme de boutade de salutation du matin qui n'a pas besoin de plus de commentaires. Je sais que vous adorez faire ça, mais il me semble que quand même, y compris le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, nécessite
Il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette expression. Vous êtes élue de la République, donnez des explications, Madame Obono. Vous l'assumez pas alors?
Vous ne l'assumez pas. Monsieur le journaliste, vous m'écoutez ou vous m'avez juste...
C'était chez nos collègues de BFM TV tout à l'heure. Madame Obono, en disant « mangez vos morts », je ne sais pas. Alors en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire, un mot impoli plutôt, utilisé rarement, notamment en politique. Alors, sauf que là, elle a voulu, vous savez quoi, dire, en quelque sorte, dénoncer, en disant « mangez vos morts », qui instrumentalise la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. Alors, parlons-en, chers amis auditeurs. 01 53 48 3000. C'est le moment de mettre les pieds dans le plat et de dire, évidemment, qu'est-ce que vous en pensez? Tout de suite, je vous attends au 01 53 48 3000. Venez, évidemment, livrer. Est-ce que Sandrine Rousseau a eu raison? Est-ce que Danielle Obono, elle, a eu raison d'employer ce terme? De dire « mangez vos morts », vous vous rendez compte quand même à cette injonction qui a été très mal prise, justement. Eh bien tiens, allez en direct, 01 53 48 3000. Allô, bonsoir. Bonjour.
Allô,
bonjour.
Attendez.
Oui, bonjour, bonjour, vous êtes, comment vous appelez?
Je suis Karim, je suis sur BFM là, normalement.
Oui, bien sûr, bienvenue Karim, vous appelez de quelle ville?
De pourtant, mais je suis en direct, on dirait.
Oui, vous êtes en direct, mon cher Karim.
Parce que d'habitude, il y a quelqu'un qui décroche.
Je sais absolument. Mais comme là,
je peux répondre à votre question.
Allez-y, mon cher Karim.
Alors moi, d'abord, je tiens à dire que je soutiens les femmes iraniennes uniquement pour le principe de la liberté. Normalement, une femme, où qu'elle se trouve dans ce bas monde, devrait avoir le droit de se vêtir comme elle le veut. Puisque les hommes ont cette possibilité, je ne vois pas pourquoi les femmes ne l'auraient pas. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est cette, je perds mes mots, à géométrie variable, ce soutien à géométrie variable. C'est-à-dire que les gens en Europe, et particulièrement en France, les féministes, luttent pour soutenir les femmes iraniennes. Et ça, il faut leur reconnaître, c'est très bien ce qu'elles font. Et elles déploient une énergie folle pour soutenir les femmes iraniennes qui veulent ne plus porter le voile. Mais elles développent la même énergie pour interdire les Françaises de le porter si elles le veulent. Alors moi, j'arrive pas à comprendre. Soit vous battez pour la liberté des femmes, c'est-à-dire que la femme doit pouvoir être libre partout.
C'est vrai, Karim.
Mais vous pouvez pas vous battre pour la liberté des femmes iraniennes et opprimer les femmes françaises.
Mais c'est pour ça que ça fait des masses qui veulent le porter. Manger vos morts. Bon.
Voilà, il y a des femmes françaises qui veulent le porter. Alors, une femme iranienne qui porte le foulard, il faut la défendre, ce qui est normal. Mais en France, dès que vous portez le foulard, vous êtes forcément opprimée, soumise, arriérée, sous l'emprise d'un homme, etc., etc. Il faut arrêter avec ça. Il faut se battre pour la liberté des femmes où qu'elles se trouvent et quelles que soient les conditions. Il faut qu'on ait le droit de porter ou de ne pas porter le voile partout dans le monde. Alors donc, moi, leur combat me semble suspect. Voilà.
Bon, et bien écoutez, on va continuer d'ouvrir l'antenne au 01 53 48 3000. Merci Karim de Pantin, merci d'être intervenu. Le standard continue, vous continuez de nous appeler au 01 53 48 3000. Continuez évidemment à venir donner votre point de vue concernant ce sujet. Pour l'heure, il est 18h30 pile, c'est parti pour le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, vous le savez, c'est avec grand plaisir que j'accueille. Eh bien, c'est une nouveauté en pleine saison. On accueille un nouvel avocat après évidemment Philippe Henri Honegger, qu'on a eu l'occasion d'accueillir comme chaque lundi ici. Et vous le savez, il vous embrasse très fort et pour des raisons d'emploi du temps, il ne peut malheureusement honorer ses rendez-vous. Et on accueille vraiment très chaleureusement Maître Franck Serfati. Bonjour.
Bonsoir Ali, comment allez-vous ?
Vous savez que c'est un plaisir de vous accueillir aux informés sur BFM. D'ailleurs, vous étiez déjà venu, vous connaissez la radio, et on vous accueille avec grand plaisir.
Plaisir partagé.
Vous avez décidé de signer votre billet d'humeur, votre premier édito, tout premier, aux informés, et ce sera désormais, comme chaque lundi, votre billet d'humeur, Maître Serfati. C'est parti, vous avez décidé de consacrer un regard sur le procès des attentats du Bataclan.
Alors, pas tout à fait le Bataclan, puisque le procès du Bataclan s'est terminé voici une dizaine de jours, mais je souhaitais, avec votre permission, Adil, bien évidemment, faire un point sur un procès relatif à des attentats également, mais d'autres attentats, ceux des 7, 8 et 9 janvier 2015. Oui. 7 janvier 2015, dans les locaux du journal Charlie Hebdo à Paris 11e. On se rappelle ces faits dramatiques. Le 8, le lendemain, on en parle un peu moins, les journalistes en parlent un peu moins, et pourtant un drame également le 8 janvier 2015, puisqu'un fonctionnaire de police, en la personne de Clarissa Jean-Philippe, a été assassiné froidement, pratiquement à bout portant, pour ne pas dire à bout touchant, par Amédi Coulibaly. Clarissa Jean-Philippe, donc, qui était en service, en poste à Montrouge, pas loin de l'école juive de Montrouge, et qui a été assassinée, donc, le 8 janvier 2015, et puis le 9, troisième attentat de ceux qu'on a appelés les attentats de janvier 2015, dans les locaux du magasin Hyper Cachère à la porte de Vincennes, où Amédi Coulibaly, là encore, a assassiné froidement, lâchement, 4 individus. Au total, 17 morts les 7, 8 et 9 janvier 2015, 12 dans les locaux de Charlie Hebdo, dont un ou deux policiers, puis beaucoup de journalistes. Clarissa, Jean-Philippe, dont je viens de rappeler la mémoire disparue, donc ce fonctionnaire de police, cette dame, cette jeune dame, et puis quatre personnes abattues également tout aussi lâchement et tout aussi froidement dans les locaux de l'hypercachère. Donc un premier procès s'est ouvert le 2 septembre 2020, qui s'est terminé un an plus tard, enfin 8 mois plus tard, en 2021, et qui a abouti à des condamnations de 6 ans à 30 ans de prison ferme, pour aller vite, hein, puisque 15 accusés étaient sur le banc des accusés, donc 15 personnes étaient poursuivies pour avoir apporté une aide directe ou indirecte, des faits de complicité, participation à une organisation terroriste, tant au bénéfice des frères Kouachi que d'Amédie Coulibaly. Et sur ces 15 accusés, deux ont fait appel. Ceux qui ont été condamnés les plus fortement, les plus lourdement, Ali Rizapolat, qui avait été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement ferme de 30 ans, et Amar Rabdani, qui a été, lui, condamné à 20 ans. Donc ces deux individus se retrouvent aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale à Paris en appel. Le procès a commencé le 12 septembre et l'achèvement de ce procès, donc encore une fois en appel, est programmé pour le 21 octobre. Je voulais, alors sans trahir le secret de l'instruction qui est terminée puisqu'il n'y a plus d'instruction, sans revenir sur les 8 mois d'audience de première instance à Paris 17e, cour d'assises en première instance, sans revenir non plus sur les débats écoulés depuis le 12 septembre 2022, j'aimerais quand même, en direction des gens qui nous écoutent, rappeler que ces faits, bien évidemment, sont dramatiques. Certains témoins venant de pays étrangers, même de pays arabo-musulmans, notamment un essayiste, un philosophe d'origine syrienne, est venu dire à la barre de la cour d'assises que dans ces pays où on applique la loi musulmane, la violence est moins cruelle et on n'a pas assisté à ces actes terroristes. C'était quand même important d'entendre ces personnes ou ces personnalités d'origine étrangère, qui ne sont pas nées en France et qui ne résident pas toutes en France, expliquer qu'effectivement, depuis un certain nombre d'années, ces attentats sont quand même assez effroyables sur le sol français. C'était le premier point que je voulais souligner. Puis une deuxième observation.
Rapidement, parce que vous savez qu'on est pris par le temps.
Je termine. Je termine très rapidement. Les institutions françaises sont parfois bafouées, mais je tiens quand même à signaler que ces procès, le Bataclan auquel vous avez fait référence, le procès que je viens d'énumérer des 7, 8 et 9 janvier 2015, le procès qui se tient actuellement en appel, le procès des attentats de Nice, sont remarquablement organisés par l'État français, parce que ce sont des procès, chacun doit l'avoir à l'esprit, de format exceptionnel, tenir comme ça des audiences pendant une année avec les moyens logistiques, humains, techniques, sécuritaires mis en place, relève quand même d'un exploit. Et au-delà du fond, je voulais quand même expliquer que l'organisation est quand même remarquable, bien tenue, et je crois que c'est pas dans tous les pays du monde, y compris dans les grandes démocraties, qu'on aurait pu voir des procès se tenir avec autant de moyens et autant de compétences.
Merci pour cet édito, pour ce billet, mon cher maître Serfati. Au plaisir.
Merci mon cher Adil.
Merci à vous. Très belle soirée. On marque la pause et on se retrouve tout de suite après, y compris au 01 53 48 3000, mais également aussi avec le face-à-face. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informer, on va continuer d'accueillir nos auditeurs au 01 53 48 3000, mais également aussi le face-à-face. C'est parti, on va le stand.
Les informer, le face-à-face.
Le face-à-face avant de retrouver Aurélien qui nous appelle d'Aubervilliers. Aminsa, notre élu de la Courneuve, bonjour Aminsa.
Bonjour Adil Farkan.
Raed Chaibi, le président de l'association de la coopération franco-tunisienne, bonjour Raed Chaibi.
Bonsoir Adil.
Et on va accueillir Aurélien qui nous appelle d'Aubervilliers. Bonjour Aurélien.
Salut l'équipe, comment allez-vous ?
Très bien, très très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Aurélien ?
Alors moi, pour l'instant, je suis en recherche d'emploi. Donc,
on vous souhaite bon courage. Dans quel emploi ? Quel domaine ?
Alors moi, je recherche dans l'accueil clientèle standard et aussi également la radio, dans les métiers dans lesquels je vais travailler plus tard.
Eh bien, écoutez, il ne faut pas hésiter à candidater à la radio.
Avec plaisir, franchement. Bah oui. Avec plaisir. Avec l'ambiance, en plus, les auditeurs qui sont grave interactifs et tout.
Vous avez vu ça ?
Avec plaisir.
Exactement. Vraiment. On vous écoute, Aurélien. Vous voulez réagir sur quel sujet ?
Alors, moi, je voulais réagir sur le sujet de Madame Danielle Obono, là.
Oui.
Ce qu'elle a dit. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire son message à l'antenne pour que les gens soient encore plus scandalisés, autant que moi, je le suis. S'il vous plaît.
Mangez vos morts. Ça, je vais le rappeler, voilà. le tweet. Mangez vos morts, donc le tweet de Danielle Obono, vous savez, qui fait référence évidemment à la lutte des femmes en l'Iran contre l'oppression. Sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. Cela, mangez vos morts.
Alors, je suis d'accord, en fait, les femmes ne doivent pas se sentir oppressées, etc., etc., mais comment une femme politique d'un parti politique peut oser dire sur les réseaux sociaux devant tout le monde, genre encore, je sais pas moi, tu vas le dire à ton chien, tu vas le dire à ton frère, tu vas le dire à ta sœur, à qui tu veux, mais tu vas pas mettre sur les réseaux sociaux manger vos morts. Tu sais très bien que ça va faire polémique déjà de une, et tu sais très bien que tu vas salir ton pays juste en faisant ça, parce que la politique, c'est bien beau, mais c'est un peu ce qui nous représente à l'international.
C'est vrai, vous avez raison.
Donc enfin, je sais pas. À un moment donné, demain, quelqu'un il va voir ça sur les réseaux sociaux, il va dire « Ah ouais, en France, il y a des personnes qui sont vulgaires, franchement, j'ai pas envie d'aller là-bas, hein, parce que c'est pour me faire enlever, ou c'est pour me faire insulter, ou c'est même par des gens politiques. » À un moment donné, non mais, les gars, on est en France, liberté d'expression, je suis d'accord, mais il y a des limites en fait, il y a des limites à la connerie, il y a des choses à ne pas franchir, il y a des paroles à ne pas franchir.
Elle aurait pas dû.
Non, elle aurait pas dû, bien sûr que non.
Elle aurait pas dû, ça vous choque, clairement ça vous choque.
Moi, ça me choque. Elle aurait pu faire passer le message autrement. Je sais pas, moi, il y a plusieurs manières de le faire sans la vulgarité.
C'est pas faux. Aurélien,
je sais pas ce que vous en pensez, les gars.
Bah, écoutez, on va en parler justement. Merci, Aurélien, d'être passé, rester fidèle à la radio.
Dis-moi, est-ce que je peux faire une petite pub pour mon compte Instagram ou pas ?
Allez-y, si ça peut vous aider.
Mon compte Instagram, c'est Aurélien-FR-. Je fais des interviews pour YouTube pour le moment. Et j'espère peut-être bientôt sur Beurre FM, du coup.
Eh bien, écoutez, il ne faut pas hésiter à interpeller la direction. Merci Aurélien d'être venu. 01 53 48 3000. Continuez de nous appeler. Aminsa, justement, Raed Chaibi, concernant Mangez vos morts. Écoutez cet extrait chez nos confrères de BFM TV. C'était il y a quelques minutes à peine.
Pourquoi manger vos morts ?
Bah, je pense que vous savez utiliser un moteur de recherche et vous saurez avoir l'explication. Et c'est un tweet forme de boutade de salutation du matin, qui n'a pas besoin de plus de commentaires. Je sais que vous adorez faire ça, mais il me semble que quand même, y compris le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, nécessite justement...
Non, mais Madame Obono, je vous assure...
Je réponds, écoutez-moi.
Non, mais parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette expression. Non, il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette expression. Vous êtes élue de la République, donnez des explications, Madame Obono. Vous ne l'assumez pas, alors. Vous ne l'assumez pas.
Monsieur le journaliste, vous m'écoutez ou vous m'avez juste demandé de venir répondre sur vos plateaux ?
Mais non, je vous pose une question pour que vous répondiez, que vous explicitiez ce que vous avez écrit, au contraire.
Je vous réponds, écoutez-moi, que ma réponse vous plaise ou pas, je vous réponds. Je crois que la situation aujourd'hui en Iran est suffisamment importante et sérieuse pour justement éviter les instrumentalisations politiciennes. En Iran, il y a un mouvement incroyable mené par des femmes qui défendent leur liberté. C'est d'ailleurs un des mots d'ordre, les trois mots d'ordre qui sont repris et pour lesquels il y a des mobilisations dans le monde entier, c'est femmes, vie, liberté. Voilà les mots d'ordre.
Oui, mais c'est pas la question que je vous ai posée, madame la députée.
Messieurs, justement, mangez vos morts. C'est pas un peu trop fort, c'est quand même une... C'est impoli de parler comme ça, Aminsa. Enfin, c'est vulgaire, même.
Sur le fond, d'abord. Moi, je crois que Danielle Obono a fait preuve d'un peu de maladresse.
C'est une insulte.
C'est une injure, oui, oui. Je pense qu'un député ne devrait pas dire ça.
Bah oui.
On a été habitué sur le mandat précédent, le groupe de la France Insoumise, qui était un petit groupe hein, à l'Assemblée nationale, ils étaient un peu plus d'une quinzaine. Et donc, oui, ils avaient besoin d'être souvent dans la transgression, dans l'outrance, notamment pour montrer qu'ils exerçaient l'opposition à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est plus exactement la même situation, puisqu'ils sont un groupe conséquent au sein d'un intergroupe, l'ANUPS. Ils représentent quand même une grande partie de l'hémicycle. Ils sont le premier parti de gauche en France, que ce soit en nombre de députés ou compte tenu des résultats à l'élection présidentielle. Et donc, je crois qu'ils devraient maintenant endosser le costume de la responsabilité. Et je regrette ces expressions parce que, notamment, ça donne l'image de l'autre côté de l'hémicycle, à l'extrême droite, de plus d'apaisement. On n'a pas vu les élus d'extrême droite être dans cette forme de transgression, et donc ça montre ce contraste entre la gauche et l'extrême droite, et donc moi je le regrette profondément. Après, sur le fond, je crois que Danielle Obono, ce qu'elle voulait exprimer, c'était que les femmes doivent être libres où qu'elles soient, et Charline Van Necker, qui a fait un tweet hier, disait à peu près la même chose, mais ça n'a pas suscité de polémique parce que c'était dit d'une manière plus acceptable dans les termes, et donc je regrette que cette défense de la liberté soit exprimée de cette manière.
Eh ben, elle a réussi à ce qu'on parle évidemment de son tweet.
Oui, elle a buzzé.
Elle a buzzé. Elle voulait peut-être rechercher le buzz.
Je sais pas. Je pense que c'était beaucoup le cas sur le mandat précédent parce qu'ils en avaient besoin. Ils étaient pas nombreux. Ils étaient quelques-uns à aller sur les plateaux. Il fallait exister politiquement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils sont structurés. La France Insoumise, c'est quand même une grosse machine politique. Et donc, je crois qu'ils ont plus besoin d'être dans ces outrances-là pour se faire entendre, pour se faire remarquer.
Raïl Chaïbi.
Je suis extrêmement dubitatif, je suis extrêmement... En fait, je sais pas quoi penser, parce que c'est pas la première fois qu'on a le droit à ces excès de langage de Danielle Obono. On a tendance à oublier qu'elle est effectivement une élue de la République, une parlementaire. Même si je n'ai pas de... Mon parcours à titre personnel ne s'inscrit pas vers la LFI ou la NUPES. Je suis très nostalgique de cette époque, pas si lointaine, il y a 10 ou 15 ou 20 ans,
oui,
où on avait quand même une gauche ou une extrême gauche qui quand même s'exprimait avec une certaine tenue. Et moi, la seule chose que je peux dire, c'est j'ai honte pour la représentation nationale qu'on ait des parlementaires comme Danielle Obono.
Je vois sur les réseaux sociaux, ils disent ouais, certains parlent, elle parle comme une racaille.
On n'a pas à s'exprimer comme ça. Amine le disait fort justement. Et quel et surtout
surtout quand
surtout,
on est
et surtout quel exemple surtout quel exemple on donne à la fois vis-à-vis des concitoyens, quel exemple on donne à celles et ceux qui veulent s'engager en politique, et quel exemple on donne à celles et ceux qui ne croient plus en la politique et qui voient la manière dont ça se déroule. C'est lamentable.
C'est lamentable. 0-1-53-48-3000. Amine Sarah, après, avant de retrouver Fatima.
A oublié qu'ils ont une responsabilité, que leurs fonctions sont nobles, parce que notamment ils tirent leur légitimité de la voix des électeurs, et oublient parfois ça et se comportent un peu comme des influenceurs recherchant de manière continuelle le buzz, et ça ne doit pas continuer, quoi.
Tiens, on va aller du côté du Standard, 0153483000. On va accueillir Fatima. Bonsoir Fatima de Paris.
Bonsoir Monsieur Adil et bonsoir à vos invités.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci beaucoup mon fils. Radin Goulha Bal-Arbaïa qui goulou, goulna klima, chine fi d'layma. La députée a dit quelque chose de rien du tout, alors c'est repris partout. Alors que tous les jours, on entend à la télé, à la radio, des paroles qui n'ont aucun sens, vulgaires, ceci, par certains, et ce n'est jamais repris. Par contre, quand c'est un Africain ou un Maghrébin, français bien sûr, mais comme eux, ils nous nomment, donc ça y est, c'est le branle-bas. Qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit, on dirait que ça va relever du pénal prochainement. Donc moi, je dis que pour exister, peut-être pour exister, puisque c'est toujours les mêmes qui passent à la télé, toujours les mêmes qui squattent les radios. Et on ne les voit pas, ni Obono, ni quelqu'un d'autre. Donc moi, je trouve que ce n'est pas un truc vraiment... Ça ne suscite pas tout ce tapage.
Bon, ça nécessite pas tout ce tapage. Messieurs, vous êtes d'accord. Merci Fatima. Excellente soirée à vous. Merci à vous. 0153 48 3000. Venez exprimer votre point de vue. Vous aussi, c'est vous aussi les informés. On vous attend au standard. Finalement.
Fatima a raison, quelque part on crée la polémique pour pas grand chose. D'ailleurs la séquence qu'on vient de voir à l'instant avec Yves Calvi, il cherche la polémique quelque part, il sait très bien ce que veut dire cette expression, mais il y a une volonté de...
Enfin, c'était pas Yves Calvi, c'était avec les deux chaud. Présentateurs, Marshall.
Marshall, Alain Marshall, Olivier Truchot.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Du coup, bon, je pense que Fatima a raison sur le fond, mais Daniel Obono aujourd'hui est quelqu'un quand même d'assez habitué des plateaux télé, des radios, donc on peut pas dire que Daniel Obono est empêché d'exister dans l'espace médiatique.
Alors justement, même sujet, hein, la Sandrine Rousseau qui a été huée, vous savez quoi, elle était présente dimanche dernier lors d'une manifestation, justement une manifestation de soutien pour les femmes en Iran, eh bien on en parle parce qu'elle s'est fait huer, elle s'attend évidemment à ce qu'on l'accueille, bon je sais pas, bon, on va en parler. À tout de suite, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés, si vous venez de nous retrouver, c'est aussi votre magazine, votre émission. 18h-19h30. Dans deux minutes, à peine 1 minute 30, il sera 19h précis. Sandrine Rousseau qui continue de faire parler d'elle, vous savez quoi ? Eh bien, déjà au cœur des critiques concernant ces différentes déclarations, sur l'affaire Bayou notamment, on le sait, on l'a suffisamment commenté ici même dans les informés, eh bien l'écologiste, elle se retrouve au centre d'une nouvelle polémique, malgré elle, cette fois. Vous savez, cette vidéo d'ailleurs, qu'on va essayer de retrouver, puisque je crois qu'elle circule sur les réseaux sociaux, Sandrine Rousseau, qui s'empare du micro, qui prend la parole, qui se fait huer, et voilà, est-ce qu'elle aurait dû, évidemment, parce qu'elle est venue hein, au soutien des femmes iraniennes. Alors, Sandrine Rousseau, elle cherche quoi au juste ? Elle veut faire parler d'elle, coûte que coûte, parce qu'elle veut montrer qu'elle veut prendre les rênes des écolos.
Bah, elle est, depuis un moment déjà, elle est entrée dans un costume assez étrange où elle recherche quasiment en permanence le buzz pour exister. Je crois qu'elle a su faire en la matière. Jusque-là, j'appréciais plutôt cette manière un peu décalée de faire de la politique, la transgression, parfois être un peu en décalage avec la ligne de son propre parti. Mais là, j'ai l'impression quand même que la fonction commence vraiment à être dégradée. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est le cas pour Sandrine Rousseau ou pour d'autres, hein, qui emploient des termes qu'on n'a plus envie d'entendre dans la bouche des élus et des députés également. Donc je crois que là, il faut que la classe politique se ressaisisse pour que les fonctions soient respectées et qu'on redonne à la politique ses lettres de noblesse.
Ses lettres de noblesse. Rayet Chaibi. Eh bien.
Sandrine Rousseau, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le même acabit. C'est effectivement la recherche du buzz. Une parlementaire effectivement, mais je ne vois pas exactement ce qu'elle peut apporter au débat, si ce n'est
Elle veut exister, comme l'a dit Amine Sarr.
Oui, mais je ne vois pas ce qu'elle peut apporter à part vouloir exister pour elle-même et par elle-même. Après, dans son combat, en tout cas, dans ce qui s'est passé ce week-end.
On va écouter, tiens, Rayed. Oui. Je vous redonne la parole. Écoutez l'extrait. Siffler, parlons, me dit-on, aussi chasser, c'est dur hein, pour.
C'est pas force. En fait, c'était inévitable quelque part parce que Sandrine Rousseau s'est souvent, montrée ou en tout cas dans les déclarations qu'elle avait pu faire comme une ardente défenseure de la liberté des femmes, notamment sur le port du voile, qu'elle pouvait le porter, encore que certaines de ses positions étaient assez ambiguës. Et venir justement dans un rassemblement pour soutenir les femmes iraniennes qui, elles, je dirais, luttent pour la liberté de ne pas le porter, ça crée une ambiguïté et de facto, elle devient quelque part une coupable collatérale ou une complice collatérale. Et donc, c'est des sifflements qui, pour moi, étaient inévitables.
Inévitable, Amine Sarr.
Oui, en fait, Sandrine Rousseau, elle est victime un peu de son propre jeu. C'est-à-dire qu'à force d'être dans la recherche du buzz permanent, on finit par être incompris quelque part parce que on tient des positions, parfois on est dans une forme de contradiction. Et donc, la parole qu'on essaye de distiller, finalement, elle devient complètement brouillée. Le message est brouillé et je crois que sur le fond, que ce soit Daniel Obono, que ce soit Sandrine Rousseau ou Charline Vanhoenacker que je citais tout à l'heure, finalement, elle défendait à peu de choses près la même idée, c'est que les femmes doivent être libres où qu'elles soient. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'encore une fois, c'est cette recherche du buzz, c'est cette transgression permanente qui amène à cette incompréhension. Et je crois que Sandrine Rousseau aurait dû se douter que cette situation allait arriver à ce rassemblement à Paris. D'ailleurs, elle a pas été la seule à être huée. Alors, elle a évoqué Laurence Rossignol. Certains témoins disent que ce n'était pas le cas. Olivier Faure également, qui était présent, a été sifflé également. Donc bon, il faut pas jeter la pierre à Sandrine Rousseau, mais voilà, elle aurait dû se douter que ça se passerait de cette manière.
Un mot aussi sur, vous savez quoi, cette manifestation qui se déroule un peu partout dans le monde, de Toronto, on parle de Los Angeles, on parle de Paris, la place de la Nation, et je cite évidemment tous les autres. Alors, des milliers de personnes ont défilé ce week-end, justement ce dimanche précisément, vous savez, pour tout simplement condamner la répression en Iran, des manifestations concernant donc qui se sont déclenchées par la mort évidemment de cette jeune demoiselle qui s'appelle Mahsa Amini. Un mot quand même, évidemment, sur ces manifestations qui continuent de se dérouler en Iran. Et aujourd'hui, est-ce que en France, on n'en fait pas assez ? Ahed Chaibi.
Est-ce qu'on n'en fait pas assez ? Oui et non. On devrait peut-être certainement en faire beaucoup plus. Mais je pense que c'est la mobilisation de la, comment dirais-je, de la communauté iranienne aussi qui est importante dans ce cas de figure, parce que le sujet du voile aussi, c'est peut-être aussi de là d'où vient la complexité de la mobilisation, c'est que le sujet du voile en France et le sujet du voile en Iran est totalement différent. C'est pour ça qu'il faut pas créer cette ambiguïté, il est totalement différent. Soutenir, parce que en France il y a un fait qui existe, que on est en droit de le porter ou non. Il n'y a pas d'obligation de le porter comme on peut l'entendre ici ou là. Certainement, peut-être certains le portent par obligation, mais c'est un épiphénomène. Et donc, en Iran, c'est un contexte politique extrêmement particulier depuis l'arrivée de l'Ayatollah Khomeini en 79. Sans vouloir rentrer dans les textes, c'est un contexte assez particulier. Là, il y a eu quand même une femme qui a payé de sa vie pour cette liberté. Est-ce que derrière ça va enclencher une révolution? C'est ce qu'on espère, puisque à un moment donné les choses doivent également changer là-bas. Mais c'est aux Iraniens et aux Iraniennes de prendre leur destin entre leurs mains partout dans le monde, se mobiliser et pourquoi pas essayer peut-être de changer les choses.
Aminsa. Et les auditeurs peuvent intervenir aussi au 01 53 48 3000 pour dire évidemment pour livrer leur point de vue
sur la même position, à savoir que le peuple iranien est souverain et c'est à lui de trouver le chemin de ses aspirations, et c'est pas ni à la France ni à d'autres de faire de l'ingérence dans le fonctionnement, parce qu'on le fera pas ailleurs, on le fera pas en Arabie Saoudite, on le fera pas dans les pays du Golfe.
Exactement.
Alors je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait dicter nos règles en Iran. Donc oui, il y a des aspirations, elles doivent trouver un chemin, oui, les femmes doivent être libres partout où elles vivent, notamment en France, et on n'a pas de leçon à donner, à mon avis.
D'autant plus qu'encore une fois, comme Amine l'a très bien dit, c'est que le sujet du voile est vraiment totalement différent. Et donc, c'est très ambigu pour quelqu'un qui vit en France, en tout cas qui est dans cet écosystème, de pouvoir soutenir un combat qui est
totalement différent. J'aimerais entendre, pardonnez-moi de vous interrompre, j'aimerais entendre les femmes voilées aussi, qu'est-ce qu'elles en pensent, est-ce qu'elles sentent ces oppressions, est-ce qu'elles sentent évidemment tout ça, y compris en France chez nous, 01 53 48 3000. Vous, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? Venez évidemment livrer votre point de vue et nous faire vivre tout simplement vos témoignages témoignages. 0153 48 3000. Quand vous êtes voilé, quand vous marchez dans la rue, est-ce que vous avez le sentiment d'être agressé, attaqué? Est-ce que vous avez le sentiment aussi d'être en insécurité aussi? C'est les celles surtout qui nous écoutent ce soir partout en France. Je voudrais vraiment vous entendre au 0153 48 3000. Venez nous dire, quand vous êtes avec votre voile, est-ce que vous vous sentez oppressé? Est-ce que vous vous sentez agressé à l'extérieur, évidemment, quand vous allez faire vos courses, quand vous allez à la banque, quand vous allez à l'administration publique, bref, dans les hôpitaux, n'importe où d'ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment de vous sentir en insécurité pour celles qui portent le voile? 0153 48 3000. Je vous attends, à tout de suite. C'est vrai, c'est un sujet aujourd'hui, évidemment.
Et puis surtout, on donne très peu la parole aux concernés, ouais. les femmes qui portent le voile. Et je trouve dommage, parce que c'est souvent des hommes d'abord qui abordent le sujet sur les plateaux télé et dans les radios, et rarement des femmes, et encore moins des femmes qui sont directement concernées.
Mmh. C'est vrai. Aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'en France, quand on est femme voilée, c'est compliqué? C'est dur?
Bah oui, parce que tout de suite, on met un signe égal entre femme voilée et soumission. On met un signe égal. Et je pense qu'il serait utile de poser également ce débat-là de société, de montrer que le voile, c'est pas un signe de soumission, et que certaines le portent en toute liberté. Je prends ce cas un petit peu égoïstement, mais moi j'ai deux de mes sœurs qui portent le voile et le foulard. Je peux vous dire que c'est absolument pas par soumission. Au contraire, c'est
par choix personnel.
Choix personnel, religieux, etc. Et qui n'enlève en rien à leur ouverture d'esprit. Et je pense que ce serait utile, ne serait-ce que dans la compréhension entre nous, d'avoir ce type d'échange, ce type de débat qui casserait peut-être cette glace de l'incompréhension.
Mais je suis exactement dans la même situation, c'est-à-dire que je connais dans mon entourage des femmes qui portent le voile, et enfin, en tout cas, de ce que j'en sais, il n'y en a pas une qui le porte parce qu'elle est contrainte ou parce qu'elle est soumise par je ne sais quel père ou époux ou frère. Ça c'est pas vrai. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas la généralité. Oui, il y a des femmes...
Alors pourquoi on en fait une généralité? Pourquoi on dit la plupart des femmes le mettent par obligation? Pas. D'ailleurs, mesdames, on vous attend au 01 53 48 3000.
Parce qu'on est certain que ça va marquer les esprits. Parce que tout de suite, dans l'inconscient ou, je dirais, dans le commun des mortels, on va tout de suite se dire, ah bah, on fait le lien avec ce qui se passe ailleurs,
oui,
dans ces pays, notamment du Moyen et du Proche-Orient. Et donc forcément, comme il n'y a pas d'explication derrière, et comme on ne donne pas assez la parole à ces femmes qui le portent en toute liberté, en toute conviction, eh bien ça crée de l'ambiguïté, ça crée de l'incompréhension, et donc des raccourcis qui malheureusement prennent le pas sur la réalité.
Oui, et puis surtout, pour certains... politique ou non politique, c'est aussi un fonds de commerce, évidemment.
Aussi.
L'islam, ça fait vendre quand
aussi.
Même que sur
aussi.
Les plateaux télé. Donc oui, il y a une volonté d'instrumentaliser.
Mais quand on fait de la politique, est-ce qu'on est là pour faire du commerce?
On le voit bien.
J'aime bien.
On le voit bien dans l'opinion. On a une extrême droite qui depuis ces 15 dernières années, n'a fait que de progresser. Aux dernières présidentielles, je rappelle, c'est quand même 13 millions d'électeurs.
Oui,
donc, c'est pas rien. C'est aussi, ça a été beaucoup monté en épingle, cette histoire de tous les sujets qui concernent l'islam de manière générale.
Et pardonne-moi, Amine,
voile ou d'autres.
Et pardonne-moi, Amine, quand tu disais l'exploitation du fonds de commerce de la droite, ou surtout de l'extrême droite, ça va aussi de l'autre côté, hein.
Oui, bien sûr.
Ça va aussi de l'autre côté, quand on exploite aussi ça pour comme fonds de commerce électoral.
Aussi. Évidemment. C'est aussi le fonds de commerce des médias, parce que quand vous avez une émission qui évoque, ou je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu une polémique là dernièrement avec le maire Azdine Taibi,
oui.
Astin.
Parlons-en.
Ou sur un plateau sur CNews, vous avez quand même un intervenant qui est. C'était quand même prémédité. Il arrive avec une photo du conseil municipal pour dire, regardez, ces gens-là ne ressemblent pas, ne sont pas français, quoi, quelque part. Ils ne sont pas des Français de souche. Donc voilà, c'est en permanence
ils ont réalisé un clip,
recherche
pour s'en défendre.
De la part notamment des médias qui raffolent de ce genre de sujet, bien sûr.
Mmh. Vous avez suivi aussi également
Bien sûr. Et je pense qu'il faut dépassionner le débat sur ce sujet. Et avoir un dialogue, je crois que c'était d'ailleurs le président de la République qui avait dit ça, je crois, dans une interview dans Brut, il me semble, je crois, en fin d'année 2020, quand il avait dit que justement, il faudrait dépassionner tout ça et discuter en toute liberté, qu'on apprenne à se connaître les uns les autres. Je pense qu'à un moment donné, la question, elle va devoir se poser d'elle-même. Il est nécessaire qu'on apprenne à se connaître les uns des autres, et que, notamment sur ce sujet, qui n'est pas bien sûr l'alpha et l'oméga, parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves, j'en conviens, mais qu'on apprenne, je pense, à comprendre l'autre, à comprendre que notre société, elle est multiple, elle est plurielle, et que il y a des idées fausses que l'on se fait, et ça passe que par...
Mais justement, dialogue. Vous parlez du cas de Stein avec le maire de Stein, monsieur Azzedine Taibi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que parfois c'est ce qui risque de se produire dans certaines villes, notamment de plus en plus, le reproche de que vous ne vous êtes pas français parce que vous n'êtes pas justement de souche?
C'est des débats qu'on va devoir continuer d'avoir, et puis le combat, il va falloir continuer de le mener. Moi, j'étais aux côtés d'Azzedine Taibi ces derniers jours, notamment quand il a vécu toutes ces attaques racistes auprès de l'équipe municipale également. Et je trouve que c'est inadmissible, c'est scandaleux de continuer de donner la parole à de tels intervenants sur des grands médias comme CNews ou BFM, alors même que on le voit bien, le problème il est pas là, le problème il est social, on le sait. La dernière fois sur le sujet de l'immigration, puisqu'il y a une loi qui est en prévision pour l'année prochaine, sur un plateau, on expliquait que l'insécurité était due à l'immigration, que... Non, c'est faux. L'insécurité, elle est surtout liée, étude à l'appui, à la précarité. Quand les gens sont pauvres, oui, il y a de l'insécurité. Quand vous allez dans le 16e arrondissement, il y a des gens de toutes les couleurs. Et il n'y a pas d'insécurité, parce qu'il n'y a pas de pauvreté. Et bien, c'est exactement là le problème, c'est qu'on ne s'attaque pas au véritable sujet, parce qu'ils ne font pas, vendre, et donc on instrumentalise les sujets comme l'immigration, l'islam, etc.
Vous êtes d'accord avec ça? Quand on est pauvre, il y a de la sécurité?
Oui, il y a plusieurs phénomènes. Il y a la pauvreté, il y a le décrochage scolaire, on pourrait citer multitude de phénomènes qui conduisent à cela. Donc c'est pour ça que même moi, ça m'agace quand on fait encore ce signe égal entre immigration, délinquance, etc. Ça me sort par les oreilles, parce que encore une fois, on utilise ces slogans uniquement par fond de commerce électoral, sans essayer de comprendre la source et l'origine.
Et d'ailleurs, on ne les traite jamais sur le fond, et on n'amène jamais de solution sur...
C'est ça, on ne traite jamais sur le fond.
Là, on va avoir un débat sur la question de l'immigration avec cette loi qui va arriver. Moi, je reste persuadé qu'on ne réglera pas le problème, parce que les flux migratoires vont continuer, parce qu'il y a des déplacements de population, parce qu'il y a une croissance de la population également. Et donc, se dire qu'on va fermer nos frontières, qu'on va rester entre nous et qu'il n'y a plus de problème, c'est faux, c'est pas vrai. Au contraire, il faut traiter le sujet sur le fond.
Eh bien, on continue de parler dans Les Informés de l'épisode 2, l'épouse du député LFI qui porte plainte. On en parle et on commente et on décrypte. À tout de suite.
Les Informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, 19h22 précisément, si vous voulez nous retrouver. Les Informés, c'est avec Amine Sahal, notre élu sur la ville de la Courneuve, mais également aussi le président de la coopération franco-tunisienne, Rayed Chaibi.
Les Informés, le face-à-face.
Le face-à-face, c'est depuis un moment déjà, mais vous savez, dernière ligne droite avec Céline Katnas, vous savez, qui est retournée au commissariat, de nouveau le 26 septembre dernier, pour tout simplement transformer, c'est quoi, ces mains courantes, en plainte. Messieurs, épisode 2 sur les mêmes faits, justement, Rayed Chaibi, ça fragilise de plus en plus Adrien Katnas.
Bah, disons que ça fragilise un peu plus, effectivement, puisque comme vous l'avez rappelé, les deux mains courantes se sont transformées en plainte, ce qui indique que derrière il va y avoir certainement une enquête, et puis ensuite on verra ce que l'enquête et la justice décident de faire. Mais effectivement, oui, ça le fragilise, d'autant plus que il s'est mis en retrait de son activité parlementaire pour le moment, jusqu'à quand, puisque ce matin je crois que c'était Mathilde Panot qui disait qu'il se mettra en retrait tant que cela sera nécessaire, sauf que quand on est parlementaire on peut pas se permettre d'être en recul comme ça trop longtemps, puisque
ça, tu cèdes ta place.
Ça gèle, ça fragilise le travail parlementaire, ça, et du coup vous êtes complètement déconnecté de vos concitoyens, donc oui, ça fragilise, et je pense que lui seul doit prendre la décision adéquate.
Amine Sahal, ouais, lui seul, ouais. Bon, enfin, attention, il embarque avec lui quand même, et les filles, hein.
Oui, mais c'est son mandat. C'est-à-dire que là, si la question, pardonne-moi, Amine, mais si la question, c'est ça le fragilise au point qu'on doit se poser la question de savoir est-ce qu'il doit démissionner de son mandat de député, il n'y a que lui qui peut prendre cette décision. Rien aujourd'hui ne peut le contraindre à démissionner. Il n'y a que lui qui doit prendre la décision nécessaire, surtout si ça doit impacter son travail parlementaire.
Amine Sarah, ouais, c'est compliqué, hein.
Oui, c'est compliqué. Alors, d'abord,
on est en phase 2 maintenant.
D'abord, concernant Céline Quatennens, d'abord, une gifle, c'est jamais anodin. C'est inacceptable. C'est inadmissible. On ne peut pas le tolérer en France ni ailleurs. Maintenant, sur la situation d'Adrien Quatennens. Moi, je ne suis pas pour que le tribunal médiatique prenne le devant sur les tribunaux. Là où ça doit se décider, c'est devant les tribunaux. Il y a la justice qui s'est saisie, il y a une enquête préliminaire qui est en cours.
Sauf que quand on est une personnalité politique, ben on doit montrer l'exemple.
Il y a des incidences, évidemment.
Ah oui, il y a plus que des incidences. Vous embarquez avec vous, évidemment.
Ce sont les fameuses mains courantes qui se sont transformées en dépôt de plainte, notamment pour permettre d'entendre à la fois Céline Quatennens sur le fond et Adrien Quatennens. Donc c'est au bénéfice de la justice que ces plaintes.
C'est autre chose, hein, la plainte.
Bien sûr.
C'est pas une simple main courante, hein, c'est autre chose quand même. Là, on passe une étape. Hein.
Mais ces plaintes n'apportent rien de nouveau dans l'affaire. C'est-à-dire que ces plaintes ne sont que, sur le fond, ne sont que les déclarations déjà établies dans les mains courantes. Et donc, il y a une enquête préliminaire qui est en cours. Il faut qu'elle se poursuive et que la justice passe. Maintenant, concernant Adrien Quatennens. Il s'est mis en retrait de son rôle de coordinateur national de la France Insoumise. Je pense que c'était la bonne chose à faire parce que, notamment, il ne pouvait pas porter la parole du mouvement alors même qu'il était dans cette situation. Vous imaginez, sur un plateau télé ou même ailleurs. Forcément, la question arriverait sur
à l'Assemblée, ses collègues. Ses collègues l'interpellent. Tiens. Voilà,
et ce serait invivable et impossible à ce rôle-là. Insoutenable. Insoutenable pour lui comme pour son parti. Maintenant, les affaires, on en a plein d'autres. On a Julien Bayou actuellement qui n'a pas démissionné de son mandat de parlementaire. On a eu Abad il y a quelques mois qui a démissionné de son
Tahar Bouafs
également. Monsieur Coquerel qui a été aussi
dans des registres très différents.
Voilà, il y a un certain nombre. Il y a Monsieur Darmanin qui est ministre de l'Intérieur, je le rappelle. On a Alexis Kohler qui vient d'être mis en examen pour des faits.
Ce sont des Alex Kohler, c'est autre chose.
Ce sont des affaires. Il y a des procédures judiciaires et ces gens-là restent en poste. Je ne vois pas pourquoi Adrien Quatennens devrait démissionner de son mandat de parlementaire. Alors qu'ils se mettent en retrait le temps que, notamment, le tribunal médiatique se mette en veille, ça permettra sans doute, dans 2 mois, dans 3 mois, je ne sais pas combien de temps, parce que la procédure judiciaire va durer longtemps, il ne peut pas être écarté de l'Assemblée nationale pendant 1 an, 2 ans, le temps de la procédure, c'est pas possible. Mais par contre, qu'il laisse retomber un petit peu tout ça médiatiquement avant de retourner à l'Assemblée nationale, je trouve que c'est plutôt sage.
Raïd Chaibi, sage, bon. Ça, alors, je parlais de fragiliser Quatennens, mais là, il y a la France Insoumise.
C'est pas une question qu'on appelle à démissionner ou pas,
la France Insoumise dans cette affaire.
Ce que j'avais dit, c'était ça, c'était que la situation, puisque c'est lui qui est mis sous le feu de la rampe, c'est que se mettre en retrait quand on est parlementaire, c'est très compliqué, parce que aux yeux de n'importe quel citoyen, il est payé avec de l'argent public, il a une indemnité avec de l'argent public, et donc il reste chez lui.
Bah, le mandat de parlementaire, c'est pas uniquement être à l'Assemblée. Attention.
Non, je sais bien, Amine, mais il faut aller expliquer à n'importe quel citoyen. Tu es élu local, je l'ai été. Il faut expliquer à n'importe quel citoyen est-ce que lui, dans son travail, il peut se mettre en retrait tout en percevant son salaire. Ça, faut l'expliquer aussi aux gens. Donc c'est une question qui se pose. Maintenant, sur savoir est-ce qu'il doit démissionner ou non. C'est pour ça que je dis clairement, c'est une question qui lui appartient, parce que dans les faits, rien ne l'oblige. Mais dans la situation dans laquelle il est, et surtout, là c'est le début d'un processus, puisqu'il y a une plainte et on va voir ce qui va découler derrière. On respecte la présomption d'innocence, bien sûr, mais même si le geste est absolument condamnable, mais juridiquement il faut qu'on respecte la présomption d'innocence, tout à fait. Mais derrière, combien de temps va-t-il rester en retrait en gelant son activité de parlementaire. Et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas lui-même se poser la question? Et s'il doit se poser la question, c'est à lui seul de prendre et d'assumer sa responsabilité.
Son activité parlementaire ne s'est pas arrêtée, parce que l'activité parlementaire ne se réduit pas uniquement à la présence dans l'hémicycle pendant les questions au gouvernement. Mais je voyais mal, ça me paraît compliqué, avec la rentrée parlementaire aujourd'hui, Adrien Quatennens dans l'hémicycle. C'était pas possible. Et donc, qu'il y ait un moment de flottement comme ça avant d'intégrer pleinement ses activités parlementaires, ça me paraît plutôt nécessaire. Maintenant, si tous les parlements... Enfin, il faut quand même qu'on se dise une chose, c'est-à-dire que la classe politique, elle est à l'image du pays. Il y a dans le pays des hommes qui sont violents avec les femmes. Et donc, dans la classe politique, il y a des hommes politiques violents avec les femmes. C'est la réalité. Et donc, alors oui, il y a un devoir d'exemplarité, mais dans ce cas-là,
les Français sont très exigeants aujourd'hui, Samine, tu le sais bien.
On n'est pas très exigeant comparé, par exemple, aux pays scandinaves où on a vu, par exemple, des ministres démissionner parce qu'ils avaient fait des choses tellement banales pour nous ici. Donc non, on n'est pas à un niveau d'exigence suffisant. Ici, on doit l'être. Il faut que ce soit le même traitement pour tout le monde.
Merci, messieurs. Merci, Aminsa, élu sur la ville de Courneuve. À très bientôt. Merci à Red Chaibi, président de l'association de la franco-tunisienne, la coopération franco-tunisienne. Merci, président.
Vous avez eu du mal.
J'ai eu du mal, c'est simplement je me suis noyé. Mais c'est à peu près la même chose.
C'est ça, on s'est compris.
À la réalisation, c'était Giovanni. Merci, Giovanni. Time Sport 20-21 avec Vanessa. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, on ne lâche rien.
Bonne soirée à tous.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.